Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, quelles nouvelles du vivant toute cette semaine. Aujourd'hui, notre dernière rencontre avec Roland Cher, philosophe, qui a récemment publié un livre intitulé « Répondre du vivant ». Quelle nouvelle du vivant ? Le vivant n'est pas seulement un ensemble de faits objectifs, de choses que l'on peut observer, de molécules ou d'organismes. C'est aussi une expérience subjective, une relation au monde, parmi laquelle il y a l'expérience humaine dont nous allons parler aujourd'hui avec Roland Cher, sous le double signe de la responsabilité et de l'habiter. Habiter le monde. Bonsoir Roland Cher.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'avoir accepté
Merci de votre invitation.
Je suis très heureux de pouvoir discuter avec vous autour du vivant, de votre livre « Répondre du vivant » paru aux éditions du Pommier en 2013 et que vous avez prolongé de diverses façons. Si vous me le permettez, puisque quand même les livres sont aussi des objets que les vivants écrivent, construisent, vous l'avez construit d'une certaine façon. Il y a deux parties dans votre livre. Il y a deux parties finalement sur le rapport de l'humain au vivant et au monde. Il y a une première partie qui porte sur la responsabilité et une deuxième partie qui porte sur habiter le monde. Et je me demandais, ce serait ma première question, Roland Cher, intuitivement, avant d'être responsable du monde, est-ce que l'homme ne l'habite pas avant ? Pourquoi est-ce que vous avez commencé par la responsabilité comme rapport de l'homme au vivant et continué par le fait d'habiter le monde au lieu de l'inverse? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas d'abord décrit la manière dont l'humain habite le monde et ensuite en est responsable? Deux choses qui, pour vous, sont des manières fondamentales pour l'humain d'être dans le monde.
Oui, je vais vous répondre de deux manières. D'abord, j'avais l'intention d'écrire un livre d'éthique et de reprendre, de commenter, peut-être d'approfondir l'éthique de la responsabilité de Jonas, qui met cette question de la responsabilité au centre de sa réflexion.
L'auteur donc du principe responsabilité.
L'auteur du principe de responsabilité.
Un des premiers philosophes, comme on dit, de l'écologie. Finalement.
De l'écologie. Et puis, d'une part, Jonas fonde la responsabilité sur la condition de vivant. Autrement dit, il pose que c'est de l'existence, de la vulnérabilité du vivant que naît la requête et donc l'exigence éthique dont à laquelle la responsabilité répond. Donc, l'approfondissement de la notion de responsabilité conduisait à s'interroger sur, au fond, mais alors, qu'est-ce qu'être vivant ?
Donc finalement, vous n'êtes pas parti du vivant, vous êtes parti d'une enquête plus générale sur la responsabilité. Et là, vous arrivez.
C'est en tout cas le cheminement. Oui, c'est en tout cas le cheminement. Mais il y a sans doute une autre raison qui m'est venue en réfléchissant à la conversation que nous allions avoir. Au fond, ce n'est pas tant habiter qui m'intéresse, mais c'est fabriquer de l'habitat. C'est cette activité dont je crois qu'elle est propre au vivant, bien au-delà de l'humain, qui consiste à produire de l'habitat, à rendre du milieu habitable. Autrement dit, et qui me paraît être une autre manière de parler de la responsabilité.
Oui, mais alors justement, Roland Cher, puisque vous dites finalement, habiter est un comportement fondamental peut-être pas de tous les vivants, mais en tout cas de beaucoup de vivants dans le monde, un rapport au milieu qui consiste, alors on va essayer de comprendre en quoi ça consiste, mais de se construire un lieu dans ce milieu, un lieu inséparable de nos vies, d'où ensuite on peut partir peut-être pour explorer le monde. Si c'est si important, est-ce que ça ne vient pas avant le sentiment de responsabilité, c'est-à-dire même moralement, est-ce que ça n'est pas le fait que nous habitons le monde qui nous oblige à le protéger ?
Oui, mais au fond,
c'est pas du tout une objection, c'est plutôt comment se lient ces deux dimensions.
Je comprends, alors je dirais que c'est en cheminant de la responsabilité à ce que c'est qu'être vivant et à l'idée qu'être vivant, c'est habiter, qu'on se rend compte, je dirais presque a posteriori ou à rebours, que le fondement de tout cela, c'est dans ce que c'est qu'habiter. Et une des thèses de mon bouquin consiste à dire que, au fond, avant même de fabriquer de l'habitat, rendre des milieux habitables, de construire des nids, des niches, des maisons, des villes, que sais-je, le vivant lui-même se constitue en habitat. C'est-à-dire que l'activité de fabriquer de l'habitat, il est constitutif de la manière dont le vivant survit.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Roland Cher? C'est-à-dire que, effectivement, habiter, c'est un rapport d'abord à l'environnement, on pourrait dire, autour de soi. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est aussi quelque chose de plus fondamental. Est-ce que ça a un lien, même étymologique, entre habiter et l'habitude, entre le fait d'avoir un comportement qui s'incruste un peu, qui se familiarise, et ensuite on rendrait le monde familier? Mais est-ce qu'il faut pas d'abord une niche, un ventre maternel, une coquille, une maison pour pouvoir avoir des habitudes?
Oui, mais...
On est tout de suite au cœur du problème.
Oui. Je fais appel, pour répondre sur cette question, je fais appel à la notion d'homéostasie. C'est-à-dire...
Oui, là, il faut nous la définir. C'est la régulation d'un corps, mais... Techniquement, j'avoue, j'attends votre définition.
Voilà. Au fond... un être vivant, d'abord, c'est le point de départ, doit constamment échanger et avec son milieu, et il survit de ses entrées et de ses sorties de matière, d'énergie et d'informations qui doivent être continues, qui, si elles s'interrompent, déclenchent la mort.
Ouais, voilà, faut respirer, se nourrir.
Quand l'échange s'arrête, ça meurt. Donc, la paroi qui entoure un être vivant, la carapace, la peau, l'enveloppe, que sais-je, ne peut pas être perméable, ne peut pas être une clôture, ne peut pas être fermée, ne peut pas être une forteresse.
Ne peut pas être imperméable, vous
voulez dire. Ne peut pas être imperméable, pardon. Il faut que ça passe.
Il faut que ça passe.
Il faut que ça passe. Pour autant, est-ce que, quand ça passe, tout passe? Est-ce que c'est une passoire, si je puis dire? La notion d'homéostasie met en évidence que dans ce mécanisme métabolique d'échange avec le monde extérieur et avec le milieu extérieur, en réalité, se fabriquent deux milieux. Ce que Claude Bernard appelait le milieu intérieur. Et ce milieu intérieur, il se caractérise par le fait qu'il a des paramètres relativement stables par rapport au milieu extérieur et que...
Par exemple, notre température à certains...
Par exemple, pour nous autres qui sommes...
En principe, quand elle monte ou quand elle bouge trop, ou elle descend trop, c'est pas bon. Mais voilà. Justement, il y a une température à peu près
stable. Et puis, il se trouve que récemment, je me suis fait faire des analyses et je regardais sur les résultats d'analyse le nombre de paramètres qui doivent, pour que tout aille bien, rester situés entre un maximum et un minimum. Ils sont quantités. Et donc, il y a un système de régulation qui fait que toute une série de paramètres sont maintenus constants dedans, alors qu'il fluctue dehors.
Donc pour vous, Roland Cher, et là vous allez encore plus loin que dans votre livre, Répondre du vivant, encore une étape plus loin, finalement le premier endroit que nous habitons, ou grâce auquel nous habitons tout le reste, c'est notre corps.
C'est notre corps.
Et tout vivant, finalement...
Je suis convaincu de ça, c'est notre corps. Et d'une certaine façon...
Mais qui habite le corps? Ou est-ce que le corps se construit lui-même comme un...
L'autoproduction de l'organisme vivant, l'autoproduction du corps, se fait comme autoproduction d'un habitat dans lequel un milieu intérieur différent, si vous voulez, au fond, vivre, c'est produire de la différence entre le dedans et le dehors, si je puis dire de manière un peu schématique.
Mais justement, donc il est tout à fait indissociable d'avoir un corps, c'est-à-dire ce milieu intérieur que décrivent les physiologistes, les biologistes qui étudient l'intérieur du corps justement, et c'est indissociable du fait que ce corps soit dans un monde qui n'est pas un dehors neutre, qui n'est pas un vide infini, qui n'est pas un dehors absolu, mais qui est lui-même un monde centré autour de nous, habitable, c'est-à-dire avec certaines qualités qui nous permettent d'y survivre.
Alors, d'une part, il faut qu'effectivement les échanges métaboliques soient tels que la ressource alimentaire, les écarts de température ne soient pas excessifs. Par exemple, on sait que si la Terre est habitable, pour parler de la Terre, c'est que la température est en gros située entre un minimum et un maximum. Et que si l'eau gelait ou si l'eau s'évaporait, le vivant aurait beaucoup plus de difficultés à proliférer. Donc, l'une des caractéristiques du système Terre, c'est que il est hospitalier à la vie parce qu'il présente un certain nombre de caractéristiques qui lui sont favorables. À la vie telle qu'elle est. Donc, d'une part, il faut que ce milieu présente ces conditions telles que les échanges métaboliques Mais en même temps, le fait qu'il y ait des échanges métaboliques constitue un danger. D'une part, le corps peut se briser, le sang peut s'écouler. Des parasites peuvent rentrer.
L'échange peut se perturber de mille façons à cause du dedans.
Voilà. Et donc, les systèmes de défense immunitaire, enfin, toute une série de mécanismes d'homéostasie, de maintien de la structure du vivant, sont ceux qui, jouant avec les échanges métaboliques, empêchent ces échanges métaboliques de se retourner contre l'organisme vivant qui a besoin d'eux pour survivre.
Et Roland Cher, au fond, pour dire un mot au passage, mais de l'ensemble de votre démarche, ce qu'on entend, avant même d'aller plus loin dans ce que vous dites, c'est que pour comprendre nos problèmes éthiques, politiques, notre rapport au monde, à l'environnement, il faut passer par une philosophie de l'homme comme être vivant, il faut passer par une philosophie de la vie. On ne peut pas comprendre, au fond, les problèmes politiques aujourd'hui sur l'environnement si on n'a pas ce que certains ont appelé une anthropologie philosophique, une philosophie de l'homme dans sa condition d'être vivant, et puis même une philosophie du vivant en général. On a besoin de la philosophie et de la biologie.
Je crois que c'est crucial. Je vais prendre un exemple. Nous avons été longtemps convaincus que seule l'espèce humaine rendait le monde habitable. L'écoumène, c'est la création de la culture humaine.
Écoumène, faut le rappeler, ça vient du mot grec qui veut dire maison, qui a aussi donné écologie, économie. Donc l'écoumène, très précisément, Roland Cher, comment est-ce que vous le définiriez?
Non, je veux dire que les Grecs qui avaient introduit ce terme d'écoumène considéraient que c'était cette espèce de région prise sur la nature, sauvage, cruelle.
Le domaine humain, finalement.
Le domaine humain.
La civilisation.
Voilà. Et vous savez que dans la mythologie grecque, c'est Héraclès, c'est Hercule qui nous aide à le constituer en détruisant les monstres qui ravagent, en nettoyant les écuries des Osias, et puis finalement en nous apportant les pommes du jardin des Hérides et les bœufs d'Érion.
Donc il y a une nature sauvage qui est pensée comme inhabitable, qui est inhabitée,
inhabitable.
Il n'y a pas d'habité.
Voilà.
Il y a une sorte de sauvagerie. L'habitation commence avec l'humain.
Et l'habitation, c'est-à-dire la sécurité, la mise à l'écart du danger, la création de frontières, la création de barrières commence avec l'humain. Aujourd'hui, nous sommes obligés de considérer que l'ensemble du vivant rend le monde soit difficilement habitable, les prédateurs, soit habitable.
Mais même les prédateurs ont besoin d'habiter. Donc tous les vivants, d'abord, construisent une habitabilité du monde.
Absolument. Et contribuent. Je vais vous prendre un exemple, moi, qui m'a toujours fasciné, c'est la question des vers de terre de Darwin. Mmh. Vous savez que Darwin s'est passionné pour les vers de terre. Dans l'origine des espèces, les vers de terre, il les mentionne souvent en disant ces êtres pauvrement organisés qui sont tout en bas de l'échelle des êtres, plus bas que terre. Hein, enfin. Et puis, à la fin de sa vie, à la fin de sa carrière, et Darwin n'est pas gâteux du tout, il écrit un livre de 300 pages sur l'intelligence des vers de terre. Et au tout début de sa carrière, Darwin a écrit un petit papier qu'il a présenté dans les années 1830 ou 1840, je ne sais plus, à la Société royale de géologie, sur le rôle des vers de terre dans le renouvellement de l'humus, c'est-à-dire le rôle des vers de terre dans la fertilisation du sol.
Ce qu'on redécouvre beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs, avec, comme les abeilles, une fonction absolument vitale, au sens littéral du mot,
absolument.
Pour tous les vivants.
Nous sommes en train de redécouvrir le rôle de multiples populations vivantes dans l'habitabilité qui nous est faite du monde et dont nous profitons. Et les vers de terre, c'est assez fascinant parce que c'est le début de la chaîne trophique.
Mais hein, alors, est-ce que les vers de terre, Roland Cher, d'après vous, parce que vous parlez aussi des fourmilières, des termitières, des niches, des nids, est-ce que les vers de terre aussi construisent leur maison, j'allais dire, le monde n'est pas...
J'avoue.
Parce que là, vous les décrivez comme étant des moyens pour nous d'habiter le monde, mais ils sont forcément aussi leur milieu propre et leur finalement, le monde est pour eux aussi une maison, d'une façon ou d'une autre.
En tout cas, les galeries qu'ils creusent, la manière dont ils aèrent et dont ils meublent le sol, la manière dont ils minéralisent les déchets végétaux, tout ça leur crée probablement leur propre habitat. Et c'est cet habitat-là qui devient la condition de la pousse des végétaux, c'est-à-dire de l'alimentation des animaux et de la nôtre. Autrement dit, nous avons là quelque chose qui est au début d'un grand cycle, hein, dans lequel, alors nous savons que ce ne sont plus seulement les vers de terre, c'est des milliards de virus, de champignons, de bactéries qui renouvellent la fertilité du sol et qui sont indispensables à ce que, pour qu'on puisse faire pousser des végétaux sur la terre.
Donc le monde n'est pas seulement abstraitement comme ça une sorte d'espace commun ou de maison commune, il l'est certainement, et pour les humains maintenant cette maison commune relève de notre responsabilité, mais il est aussi fait de milliers de petits espaces d'habitation, de milliers
Absolument.
De manières d'habiter cet espace commun.
De manières d'habiter et alors en particulier, moi ce qui m'a fasciné, vous parliez des termitières tout à l'heure, ce qui m'a fasciné c'est... Vous vous souvenez que Jonas dit le prototype de la responsabilité, c'est le soin parental.
On va y revenir, Roland Cher. Effectivement, Hans Jonas dit si la responsabilité vient du vivant, c'est d'abord avec l'exemple des petits, des nourrissons.
Du nouveau-né.
Parce qu'ils relèvent de notre responsabilité, voilà, eux, individuellement, et du coup, toute l'espèce.
Et voilà, et de façon tellement évidente, je veux dire, un nouveau-né manifeste sa précarité, sa fragilité, son impuissance, et émet une espèce de requête qui s'impose sans qu'il y ait lieu, besoin, nécessité de penser, de réfléchir, etc.
Ça peut se discuter, Roland Cher. On discutera d'ailleurs, parce que sinon, comment expliquer que certains bébés soient abandonnés, en particulier chez l'humain ? Il y a une lacune dans cette genèse vitale de la morale, c'est comprendre le mal, quand même.
Oui, tout à fait. Non.
En tout cas, c'est un problème. Mais en tout cas, il est clair qu'il y a néanmoins, malgré tout, une dimension vitale de la responsabilité.
Tout à fait. Et alors, les habitats construits, comme disent les Anglais, les nursery environments, les niches construites en particulier par les insectes sociaux.
Nursery.
Les biologistes anglais, les naturalistes anglais disent nursery environments.
C'est très beau, je trouve, que la notion de nursery soit aussi un concept scientifique.
Oui,
et pas
oui.
seulement, finalement, oui.
Non, non, non,
une sorte de fonction...
On fait feu de tout.
Non, c'est pas un hasard, quand même.
Non, mais tout à fait. Par exemple, ils expliquent que la thermorégulation des nids, c'est un phénomène prodigieux, c'est-à-dire que, vous savez que lorsque la température monte dans une ruche, une partie des abeilles de la ruche vont à l'entrée de la ruche battre des ailes pour aérer la ruche. C'est-à-dire qu'il y a des signaux qui ont été perçus, des signaux chimiques en l'occurrence, qui ont été perçus, qui signalent que la stabilité du paramètre température, en l'occurrence, est menacée, et une intervention collective fait que elle est rétablie. On pourrait parler aussi dans les termitières de phénomènes extraordinaires. Par exemple, une termitière a des bouches par lesquelles entre l'air neuf et par lesquelles sort l'air usé.
Comme on dit les eaux usées,
l'eau, pour les humains.
Comme
c'est très peuplé, comme il y a beaucoup de monde là-dedans, la production de gaz carbonique est assez importante. Donc, il faut ventiler. Eh bien, on a montré que lorsque la croissance de la population, lorsque la population croît brutalement, il y a des termites qui montent en haut de la ruche et qui créent une nouvelle ouverture parce que le besoin en ventilation est augmenté par l'augmentation de la population. Et donc, il faut créer une nouvelle arrivée d'air et une nouvelle sortie d'air.
Alors, on sent, en vous entendant, et je crois que depuis votre livre, vous travaillez d'ailleurs sur l'architecture, beaucoup, sur cette question de l'habitation, on sent que pour vous, habiter, c'est pas un phénomène secondaire, c'est au contraire le fait primitif, peut-être, du vivant dans le monde. Par exemple, on pourrait dire, il faut rendre le monde vivable, mais vous dites qu'il faut le rendre habitable. Qu'est-ce que ça ajoute exactement? Qu'est-ce qui est si fondamental dans cette question de l'habiter? Cette médiation dont on a besoin, c'est que le monde nous apparaît immédiatement comme fondamental pour nous.
Oui, c'est-à-dire, je crois que si on repart de l'exemple des soins parentaux et si on les aborde dans le vivant en général et pas seulement dans le monde, dans un monde humain, on voit comment acheminer de la nourriture, fournir de la chaleur, fournir de la sécurité, etc. C'est la condition de la survie. Alors, bien sûr, des petits, parce qu'ils sont dans une phase d'hypervulnérabilité, mais ça reste une condition telle que c'est la réponse à cette affirmation. Jonas dit, le vivant dit oui à l'être. Mmh. Il utilise cette formule qui donne une espèce de fondement ontologique discutable à la valeur, puisque c'est de là que vient la valeur.
C'est quand même une très belle formule.
Mais c'est une très belle formule. Le vivant dit oui à l'être, et la création d'un monde habitable est ce qui répond à cette volonté d'être, à cette préférence pour l'être plutôt qu'au non-être, dans la création. La production.
C'est ça. Si on dit le monde est vivable, on le prendrait comme un fait objectif. Le monde, que le monde soit habitable, c'est une création du vivant lui-même.
Voilà.
Dans son univers.
Une création du vivant lui-même à travers lequel il crée des environnements dans lesquels il puisse lui-même se créer.
Ce qui est intéressant à discuter, et c'est ce qu'on fera certainement dans la deuxième partie de cette discussion, c'est la spécificité de, non peut-être pas de l'habité humain, mais du vivant humain, puisqu'il est maintenant responsable de rendre le monde habitable ou inhabitable pour tous les autres. Dans l'habité humain, il y a des transformations de l'univers naturel, il y a aussi des fonctions culturelles, nous mettons des tableaux sur nos murs, comme disait Michel Serres, nous écoutons aussi de la musique. Vous avez choisi un morceau de musique très précis, Roland Cher, vous nous direz pourquoi, oui, après qu'on l'ait entendu.
Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, quelle nouvelle du vivant. Toujours notre rencontre ce soir avec Roland Cher, auteur notamment du livre « Répondre du vivant » aux éditions du Pommier, et qui a choisi donc pour jalonner notre conversation sur la manière dont nous habitons le monde, ce passage de Jean-Sébastien Bach, Roland Cher. Pourquoi ce passage précis, joué par Martha Argerich? Pourquoi donc cette partita, Roland Cher?
Parce que ce passage est une fugue. Une fugue, c'est-à-dire, dans une fugue, je crois que personne ne fuit, mais tout le monde se court après. C'est-à-dire, la fugue, ici, c'est une musique prodigieusement savante, bourrée de contraintes. Ce ne sont que des contraintes. Et comme vous l'avez entendu en écoutant cette musique, de ces contraintes, il y a jailli une espèce de flux de d'inventivité, de créativité. Ça bondit à l'intérieur même de contraintes colossales. Et je trouve que que Martin Rivière en particulier arrive à rendre ça d'une manière, on a l'impression que c'est d'un naturel, comme on dit, d'un naturel et d'une spontanéité prodigieuse, alors que c'est l'art du contrepoint dans son essence.
Mais alors, Roland Cher, vous en tirez une comparaison avec les vivants, c'est-à-dire qu'ils doivent faire avec des contraintes multiples, toutes ces régulations dont vous parliez, toutes ces conditions pour survivre, et avec ça, ils ne se contentent pas de survivre, ils font plus, ils font de la créativité. Est-ce que c'est une comparaison ou même est-ce que ça va plus loin? C'est-à-dire que l'art, la musique, est encore une manière d'ajouter de la créativité, tout simplement à la vie, à nos contraintes vitales.
Oui, oui.
Parce que là, c'est des contraintes formelles que l'artiste s'impose, mais finalement, elles prolongent peut-être les réponses vitales, c'est pas seulement une analogie.
En tout cas, ça me paraissait être une bonne manière d'apporter un moment de musique dans une émission sur la vie, parce que je trouvais que la vie était sensible dans ce morceau. Et en effet, je pense que quand je parle de l'intérêt, de ce qui me paraît le plus précieux, qui est la fabrication d'habitat, la création d'habitat, je pense que ça renvoie aussi à précisément une activité créatrice, à une activité, et pas seulement au fait d'habiter.
Mais alors, restons un tout petit peu sur la création, Roland Cher. Je sais que du côté de l'habiter, vous travaillez aussi sur des lieux très sophistiqués, comme le château de Chambord. Est-ce que certains disent que, par exemple, l'oiseau chante pour survivre, mais que l'homme a développé le chant aussi pour des vertus purement humaines, purement culturelles. Est-ce que pour vous, il y a néanmoins une continuité entre les fonctions vitales du chant, de la musique, qui même chez l'homme existe, et puis la création artistique, entre survivre dans un abri de fortune, comme parfois même certains sont sans abri, sans habitat, sans domicile, comme on dit, ou bien avoir construit le château de Chambord, est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce que le monde humain est fait aussi de ces différences, de cette culture, Roland Cher?
Oui, je crois que le monde humain, ce que nous appelons la culture, c'est, prenons les habits, voilà. Puisque c'est la première forme de l'habiter.
Qui s'ajoute à notre corps.
Et ce sont, c'est
pour réguler notre température.
Voilà,
on en met.
Voilà. C'est cet habitat qu'on transporte avec soi.
L'habit comme habitat.
Voilà, l'habit comme habitat. Eh bien, on sait que très vite, ça a été une parure. Hein. Très vite, l'habit est en même temps une parure. Très vite, l'habit est en même temps une manière de créer du lien social, de séduire. Et les parures de certains oiseaux, vous le savez, sont aussi des manières de séduire les femelles. Donc, il y a dans la création dite culturelle ou dite artistique, je crois, une manière de produire du lien social, comment dire ça, c'est extrêmement difficile de tirer un pont entre les manifestations proprement matérielles de l'habité et la création artistique, mais
ça existe sans doute malgré tout.
Oui.
Et ça nous amène aussi à une autre dimension qui est évidemment au cœur de votre livre. Alors là, plutôt dans la première partie. À savoir que, d'une certaine façon, l'habité humain, peut-être avec sa sophistication, Rousseau, par exemple, dès le XVIIIe siècle, avait cherché à montrer comment ça s'était retourné, comment finalement la manière humaine d'habiter le monde était devenue tellement sophistiquée, peut-être, avec le luxe, avec la culture, qu'elle en vient à le détruire. Peut-être que pour habiter le monde, l'humain finit par le rendre inhabitable. Si tous les humains devaient habiter Chambord, construire des Chambords, et par Chambord, faut aussi entendre avoir des voitures, avoir des maisons, des résidences secondaires, tertiaires. Est-ce que finalement, il faut pas revenir à un habité humain dans un monde vivant qui ne se coupe pas de ce monde?
Oui, tout à fait. Et en plus, l'exemple que vous prenez de Chambord est assez significatif parce que on pense aujourd'hui que Chambord n'a jamais été destiné à être habité.
Est-ce que c'est même habitable?
Et que probablement Chambord n'est pas habitable.
Donc c'est une maison inhabitable.
Enfin, c'est une maison inhabitable.
Les hommes ont inventé ça.
Voilà. Nous avons, pour l'exposition que nous préparons sur Chambord, lancé un concours d'architecture sur que faire de Chambord au XXIe siècle. Et une école d'architecture a répondu à ce concours, parmi d'autres, en nous proposant l'utopie suivante. rendre Chambord habitable.
Ah bah, et je trouve ça c'est là que votre travail philosophique et vos responsabilités, parce que vous avez eu des responsabilités à la Cité des sciences et de l'industrie, et là vous êtes occupé de cette question d'architecture, se recoupent. Vous êtes aussi sur le terrain, j'allais dire.
Absolument, absolument. Et c'est assez amusant de se dire que Chambord est inhabitable parce que au fond François Ier voulait en mettre plein la vue à Charles Quint pour parler très vite et faire un objet merveilleux unique architecturalement unique et probablement un rêve.
Mais alors, Roland Cher, ça nous ramène à la question fondamentale de votre livre et de tout votre questionnement, qui est finalement la place de l'humain dans le vivant. D'un côté, l'humain est un vivant comme les autres, qui construit son habité. D'un autre côté, il a une manière d'habiter tout à fait particulière qui interfère avec le monde et qui peut même le détruire. Et en même temps, ce que vous dites en ouvrant votre livre sur la responsabilité, c'est que désormais, l'humain est responsable du monde d'une façon évidente. La responsabilité lui est donnée ou même abandonnée.
Oui.
Le monde dépend de nous, autant que nous dépendons de lui.
Tout à fait. En tout cas, l'échelle de la responsabilité s'est dilatée dans des proportions considérables du fait de cette puissance technique qui est la nôtre. Et la responsabilité globale de l'habitabilité du monde nous est confiée parce que nous pouvons la compromettre et la détruire. Au fond, au moment où le paradoxe de notre situation, c'est comment où cette puissance technique s'accroît, nous nous rendons compte qu'elle peut conduire à qu'elle a déjà conduit massivement à des destructions d'habitat. Mmh. La question de la biodiversité, c'est avant tout une énorme et continue destruction d'habitat qui font que pour des tas d'espèces, le monde n'est plus habitable sous l'effet du béton, de la déforestation, de toute une série de techniques humaines. Pollution chimique, atmosphérique, etc. Et la question aujourd'hui est de passer à une réflexion de caractère, disons, systémique, comme on dit. C'est-à-dire, il s'agit pas de sauver des espèces en perdition. Il s'agit d'essayer de commencer à comprendre quelles sont les différentes contributions que les différentes composantes du vivant apportent à l'habitabilité du monde en considérant celle-ci comme globale et pas seulement comme humaine. Autrement dit, c'est pas seulement notre habité qui est en cause, c'est la planète Terre comme monde habitable.
Mais Roland Cher, c'est là que j'aurais une question difficile, je pense, pour tout le monde, mais à vous poser, c'est est-ce que la responsabilité de l'homme que vous dites politique, au fond, vis-à-vis du monde, parce qu'elle nous est confiée, vous évoquez le mythe platonicien de la responsabilité du politique comme gardien du monde, est-ce que cette responsabilité politique, elle n'est pas d'abord interhumaine ? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord justement faire un monde habitable entre les humains avant de rendre le monde habitable pour tous les vivants ? Est-ce qu'on pourra même rendre de nouveau le monde habitable en général sans le rendre habitable d'abord pour les humains, Roland Cher ?
Moi, j'ai tendance à penser, j'aurais sans doute du mal à le démontrer sur le coin de cette table, mais j'ai tendance à penser...
C'est une conversation, on lance les idées.
Non, mais cher Frédéric Worms, la question est cruciale. Mais j'ai tendance à penser que l'un ne va pas sans l'autre. Mm. J'ai tendance à penser que lorsque l'on parle aujourd'hui de la question de la fertilisation des sols, on est amené dans le même geste à se préoccuper des populations microbiennes, virales ou de champignons qui contribuent ou peut-être même des vers de terre. Moi, j'ai une petite affection.
Vous avez une petite passion pour les vers de terre, quand même.
et pas parce que je suis en face de Frédéric Worms. Je l'avais
avant. Je l'espère, parce que quand je vais dans un monde anglophone, effectivement, le lien est très vite fait.
Donc, vous voyez, je pense que nous ne pouvons plus penser l'un sans l'autre.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est que protéger l'humus, c'est aussi protéger les humains, finalement.
Oui, c'est-à-dire
c'est inséparable pour vous.
Oui, c'est-à-dire que si aujourd'hui on veut traiter de l'agriculture africaine, pour prendre un exemple, ou l'agriculture africaine qui a été complètement orientée vers l'exportation de matières premières dont les pays industrialisés avaient besoin, a asséché la capacité des Africains à se nourrir eux-mêmes, vous voyez bien que la manière dont est cultivé le sol d'Afrique, dont sont cultivés le sol d'Afrique, la manière dont sont fertilisés les sols d'Afrique, participe à la fois d'une réflexion sur la terre, sur les vivants, et d'une réflexion sur les humains.
Donc la place de la politique là-dedans, Roland Chéret, quel rôle est-ce que vous attribuez ici à la politique, c'est-à-dire au conflit entre les humains, au pouvoir aussi politique? Vous ouvrez votre livre là-dessus, sur ce mythe du politique très fort qui compare le politique à un pasteur, une pastorale, cette responsabilité qu'on a pour les êtres vivants qu'on soigne aussi, on dit qu'on soigne le troupeau comme on soigne les nourrissons. Le politique doit être du côté du soin. Vous faites beaucoup référence aussi à cette dimension.
Oui, la grande difficulté est que le politique s'exerce principalement à l'échelle des États, pour autant que les États conservent des moyens d'action, pour autant que le politique conserve des moyens d'action à cette échelle, et qu'aujourd'hui les problèmes sont globaux. Depuis la parution de ce livre, il m'est arrivé... c'est aussi une des raisons pour lesquelles je m'intéresse à Habité. Il m'est arrivé d'entendre un jour, en écoutant les informations, un compte-rendu du congrès du Front National. Et l'oratrice parlait, et à un moment donné, elle s'interrompt, et on entend monter du fond de la salle « On est chez nous, on est chez nous, on est chez nous ». Et voilà, je me suis dit, quand le courage de fabriquer de l'habité, l'énergie de fabriquer de l'habité, c'est-à-dire de fabriquer de l'hospitalité, de fabriquer un monde pour les autres, quand ce courage chute, quand cette énergie tombe, alors le désir d'habiter se recroqueville, se rétrécit et devient le désir d'expulser l'autre.
Et donc finalement, le chez-soi, qui est une condition pour vivre, malgré tout, s'il se coupe du monde, se retourne. C'est un des moyens dans lesquels les humains transforment l'habité en destruction.
Voilà. Et lorsque ce s'éteint, dans ce qui est notre activité de vivant et ce qui est notre activité d'humain, la fabrication de l'habitat dont je pense que, alors je ne suis pas naïf, mais dont je pense qu'elle inclut par définition la question de l'hospitalité. La question de l'hospitalité ne vient pas en plus de l'habité. Elle est inscrite dans l'activité de produire de l'habitat, c'est-à-dire de produire du lien social.
Et puis, on retrouve ici, Roland Chéret, la tension, ou je ne sais pas s'il faut dire la dialectique, en tout cas le lien que vous faisiez dès le début entre le fait de construire un intérieur et d'être en relation avec l'extérieur, entre le chez-soi et le dehors. Albert Camus disait « Il faut un chez-soi pour explorer le monde ». Et il y a un très grand poème de T.S. Eliot qui commence par « Home is where we start from ». C'est-à-dire le home, c'est presque intraduisible, c'est le chez-soi, est ce dont nous partons, mais pas ce dont nous nous renfermons. Il y aurait une pathologie, finalement, à penser le chez-nous comme une clôture.
Comme une clôture. Mais c'est une pathologie qui fait que la violence, la guerre et la mort s'apprêtent à venir sur scène, probablement.
Dans notre monde.
Dans notre monde, oui. Enfin,
vous êtes inquiet à ce point de vue-là, Roland Chéret, évidemment.
Mais oui, enfin, et vous parliez du politique de Platon. Il y a une chose qui m'a frappé dans le politique de Platon. Platon, dans les lois, par exemple, condamne très violemment l'impiété. Mais dans le mythe du politique, il dit, au fond, le problème du politique, c'est que les dieux se sont retirés. Vous vous souvenez de cette histoire, le monde s'est mis à tourner à l'autre sens, les dieux se sont dit, on les laisse tomber, qu'ils se débrouillent.
Tous les grands mythes comportent ça.
Ils laissent l'homme à sa responsabilité. Ça veut dire que le politique naît, chez Platon, de ce que le religieux s'est retiré. Ça veut dire que c'est une affaire humaine, et moi j'ai été frappé de constater le retour du religieux dans le politique dans des proportions considérables, avec chaque
fois...
Vous
voyez un des signes d'une sorte de fuite devant cette responsabilité ?
Voilà. Au fond, celui qui va... Parce que ce qui est en jeu, c'est le salut. Ce qui est en jeu, c'est d'être sauvé. Habiter, c'est aussi être sauvé, être préservé, sauvé, mis en sécurité, nourri, etc. Être sauvé. Eh bien, les monothéismes ont articulé cette promesse hyperbolique qui consiste à dire non seulement je vais vous sauver au jour le jour, vous ramener d'Égypte parce que vous vivez dans l'enfer de l'esclavage, etc. Mais je vais vous sauver de la mortalité elle-même, ce qui suppose que...
Ce qui suppose qu'il y a un habité au-delà du monde. Ce qui suppose
habité au-delà du monde.
Comme si le il fallait pas d'abord habiter le monde.
Non, mais surtout comme s'il pouvait exister une vie sans la mort. Comme si la vie pouvait avoir une valeur quelconque lorsqu'elle était défaite de sa propre vulnérabilité, de sa propre mortalité.
Alors, Roland Cher, le temps passe très vite, mais dans votre livre, vous évoquez aussi une autre pathologie qui peut être finalement symétrique. C'est une modernité qui a voulu sortir du monde, là aussi, alors pas par la religion, mais par la science, qui a voulu le maîtriser absolument. Et finalement, l'équilibre que vous décrivez, que vous demandez, que vous revendiquez, c'est à la fois construire un monde habitable et une ouverture, une circulation, une exploration, un sortir qui soit aussi compatible avec un retour, un chez-soi, une ouverture. Est-ce que c'est cette dualité d'aspect qui est vitale pour les humains aujourd'hui dans notre monde ?
Oui, j'ai un peu avancé, je dirais, par rapport au livre où je mettais en balance habiter et sortir, c'est vrai. Maintenant, je pense que le paradoxe, il trouve sa solution dans ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire fabriquer de l'habitat, produire du lien social. Je pense que c'est où habiter et sortir se retrouvent mêlés, intriqués, imbriqués l'un dans l'autre.
Parce que pour habiter, il faut des maisons, mais il faut aussi des rues, des espaces.
Il faut des ouvertures, il faut des portes, des fenêtres, il faut de l'autre, il faut...
Il faut des bateaux, il faut des moyens de circuler autant que de séjourner.
Oui.
Et dans le monde où nous vivons, vous pensez qu'en revenant à ces urgences vitales, on pourra justement répondre à ces pathologies humaines ?
Là, c'est
en tout cas ce qu'il faut...
Non, si vous voulez, la philosophie ne peut qu'essayer de comprendre ce qui se passe en essayant d'arriver le moins tard possible. C'est tout ce que je peux faire.
En tout cas, il faut prendre la mesure de ce tournant du vivant. Il ne faut pas se tromper sur la nature humaine.
Tout à fait.
C'est quand même...
Tout à fait. Il ne faut pas se...
Ça a été un des enjeux de la responsabilité humaine, de peut-être s'être trompé, s'être fourvoyé.
Je crois que nous oscillons entre une surestimation de nos capacités et peut-être aujourd'hui une sous-estimation de nos capacités. Je pense que nous avons les moyens, les outils pour rendre le monde habitable, mais peut-être faut-il considérer que ça n'est pas le développement spontané de la science et de la technique qui va nous y conduire, mais la responsabilité de rendre le monde habitable.
Merci infiniment, Roland Cher.
Merci à vous, cher Frédéric Worms.
Matière à penser, c'était notre cinquième rencontre pour prendre des nouvelles du vivant, ce soir avec Roland Cher, auteur notamment de Répondre du vivant aux éditions du Pommier, grâce aussi à Alain Joubert, Colin Gruel, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes et Frédéric Worms, qui vous donne rendez-vous dès lundi prochain, mais pour une émission exceptionnelle dans une semaine particulière des matières à penser, où chacun des cinq producteurs se confrontera au thème de la nuit des idées de l'Institut français, face au présent. Et j'aurai le plaisir d'ouvrir cette semaine avec et grâce à Barbara Cassin. Bonsoir.